Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue dans Positron pour le troisième épisode de cette session extraordinaire que nous faisons avec les amis Pascal et Harddisk. Je suis Patrick Béja et vous le savez, Positron, c'est une émission où on vous recommande trois trucs cool en 20 minutes, trois séries, trois livres, séries, livres, BD, jeux vidéo, etc. Et aujourd'hui, on a un programme incroyable à vous proposer. Mais avant de se lancer dans le cœur de l'émission, bien sûr, comme toujours, je dis bonjour aux co-animateurs. Comment allez-vous, messieurs? Pascal, Harddisk, tout va bien? Vous êtes en forme? Vous êtes parés à partir dans les incroyables hauteurs de la culture française et internationale?
Bonjour Patrick, ça va bien, ça caille, mais ça va.
Ça s'est senti que j'ai commencé une phrase dont je ne savais pas comment elle allait se terminer.
Il y avait un côté un peu matinal d'Europe 1, c'est bonjour Patrick, qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui?
C'est une phrase procédurale.
Exactement, elle est générée aléatoirement en fonction des données de la matinale d'Europe 1. Écoutez messieurs, je suis heureux de vous retrouver encore une fois pour parler de produits culturels sympathiques qui nous ont plu, et je vais commencer tout de suite avec une série assez psychédélique, je dirais, je crois que c'est le terme qu'on peut choisir. Je vais tout de suite vous demander, est-ce que vous l'avez regardé? Ça s'appelle Légion. Et c'est un truc de super-héros. Est-ce que vous connaissez?
Non, j'en ai entendu parler. On m'en dit beaucoup de bien.
D'accord.
C'est dans ma to-do list.
Mais apparemment, de toute façon, tous les trucs qui s'appellent Légion en 2016 sont géniaux. Donc, de toute façon...
Écoute, je ne sais plus si c'est 2016 ou 2017, Légion. Ça compte aussi, on va dire. Et c'est une série vraiment à laquelle je ne croyais pas du tout. D'abord, parce que c'est une série de super-héros. Et à part certaines séries Netflix de super-héros, c'est quand même très casse-gueule. Et là, en l'occurrence, c'est FX qui a produit, qui fait quand même des choses bien généralement, mais c'était quand même pas gagné, surtout que la base excusez-moi, je reviens. C'est l'esprit du protagoniste principal de Légion qui est en train de m'envahir. Donc la base de la série Légion, c'est le personnage de Légion qui, franchement, dans les comics, c'est un personnage de Marvel, dans les comics, tu te dis, c'est vraiment difficile de faire un sujet sur lui. Alors, je suis pas un spécialiste du personnage, parce qu'en plus, c'est pas un personnage qui a une grosse importance dans les comics, mais en gros, c'est le fils caché de Charles Xavier, qui lui-même est une personne qui peut qui est télépathe et qui peut entrer dans l'esprit de d'autres personnes. Et donc son fils à moitié caché a un pouvoir complètement incontrôlable, et il peut, si j'ai bien compris, si je me souviens bien, absorber les pouvoirs de tous les autres mutants du monde. Et donc, il a une puissance incroyable. Et en plus de ça, il est à moitié fou. Enfin, c'est entre un mutant normal et un gentil et un méchant. Et on ne sait pas très bien où il se place. Et lui-même ne sait pas très bien où il va, etc. Bref, c'était hyper compliqué et casse-gueule à produire en série télé, parce que l'histoire est compliquée, parce que c'est un anti-héros, et en même temps, au niveau du budget, ça devait être compliqué, parce que il y avait plein d'autres personnages à introduire, c'était dans le monde des X-Men, etc. Mais bon, ce qu'ils ont fait dans la série télé, c'est qu'ils ont un petit peu, et même carrément, déconnecté ça de l'univers des X-Men en film, ce qui était un très bon choix parce que ça aurait été boiteux de toute façon. Et ils ont vraiment interprété ça à leur sauce dans un comment dire, ils ont vraiment exploré la frontière entre les super pouvoirs et la folie. Et il y a un mélange entre les deux, et pendant une bonne partie de la série, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui est quoi. Et le personnage principal est complètement schizophrène. Il voit des choses, il est plusieurs personnes. Et l'histoire, à la limite, est intéressante. L'histoire, je pense, est réussie. Mais au-delà de ça, ce qui marque vraiment, c'est l'univers visuel de cette série. Quand je dis c'est psychédélique, c'est... complètement, comment dire, c'est un voyage. T'as l'impression que à la fois les producteurs et le spectateur, quand il regarde, a pris des psychotropes. Tu vois, c'était vraiment le speed et le Dieu sait quoi des années 70, enfin du LSD, quoi. Voilà, c'est pas du speed, c'est plutôt du LSD.
Est-ce que tu veux nous faire le coup de « ils ont pris de la drogue, les développeurs ?»
Bah, c'est un petit peu ça, mais maîtrisé. Tu sais, c'est vraiment okay. Ça où c'est pas...
Digéré.
C'est digéré, maîtrisé, recraché, tout ce que tu veux, mais efficacement, parce que c'est pas du tout un délire où tu te dis « mais putain, qu'est-ce qu'ils font ? C'est n'importe quoi, c'est trop débile, machin », où il faut limite avoir fumé toi-même pour essayer d'apprécier le truc. C'est un spectacle visuel et même psychologique qui est complètement réussi, où ils t'emmènent dans leur truc, mais ils savent où ils vont. Et ils savent où ils vont. C'est pas. On parlait de Siberia, par exemple, à l'épisode précédent, où on peut penser à Lost ou ce genre de truc, où tu dis, ouais, il y a un monstre de fumée, où il y a un truc délire qui arrive au milieu de nulle part. Et donc, c'est marrant parce que c'est au milieu de nulle part. Et c'est intriguant. Mais dans la série Légion, c'est pas du tout artificiel. C'est pas du tout un truc qui lance comme ça, pas comme ma phrase du début de l'émission où ils commencent, ils savent pas où ils vont s'arrêter, ils savent pas où ils veulent aller. Pas du tout. Dans la série, tu sens que ils ont écrit du début à la fin, ou en tout cas, ils savaient où ils voulaient aller au bout du truc, et tout le cheminement y arrive avec ces passages. Comment dire, j'ai du mal à vous décrire à quel point c'est psychotrope, parce que chaque épisode c'est et ils font énormément de références aux années 70, qui sont d'une part la base du personnage et de cet univers, c'est là que ça a été écrit, et d'autre part donc le délire LSD de l'époque, donc ils y font énormément de références. C'est censé être genre dans un futur de l'univers des X-Men, ou en tout cas une partie parallèle de l'univers des X-Men, peut-être plutôt le futur, mais ils partent complètement. Chaque épisode, tu dis, mais c'est artistiquement hyper réussi, et il y a l'imagination de ce personnage principal qui est retranscrite dans les épisodes, mais en même temps, tu sais pas ce qui est du ressort de l'imagination et de la réalité. Et visuellement, j'ai dit 12 fois visuellement, mais c'est hyper présent dans cette série. C'est pas pour tout le monde. Mais par contre, les gens à qui ça va plaire, je pense que ça va vraiment être leur truc. Et artistiquement, c'est une réussite assez admirable qui vaut le coup d'être présentée en tant que telle. Et franchement, autant j'aime beaucoup les films de super-héros, autant à la télévision, c'est plus souvent... Enfin, en série, c'est plus souvent raté que réussi. Et j'y croyais pas du tout quand je me suis lancé dans le truc. Et ben là, franchement, c'est parfaitement maîtrisé et parfaitement réussi. Et si vous aimez un petit peu les trucs de super-héros... Sans vraiment, c'est pas des super pouvoirs et des costumes, c'est juste des trucs bizarres qui se passent, mais il n'empêche, si vous aimez l'univers plus fantastique que l'univers de super-héros, c'est un truc à essayer, parce que c'est quelque chose à la fois d'original et de réussi. Donc moi je vous le recommande, c'est pour les fans, mais vraiment très recommandé pour les fans, quoi.
Tu avais recommandé, et j'ai suivi ton conseil, American Gods, il y a un certain temps maintenant. Est-ce que c'est pareil, il y a ce côté visuel délirant? C'est ça, quand tu dis que c'est difficile à décrire, parce que American Gods, c'est pareil, il y a des situations, on met du temps à comprendre ce qui se passe à l'écran. Est-ce que c'est ça, ou c'est encore autre chose? C'est plus artistique ou plus abstrait, quoi?
Je dirais que c'est un petit peu le même genre de délire dans le sens où il y a des trucs que tu comprends pas qui sont un petit peu what the fuck, que tu finis par comprendre au bout de la série. C'est pas juste le what the fuck pour le principe. Mais je dirais que artistiquement, c'est encore plus réussi. C'est encore plus psychédélique, mais c'est encore plus réussi dans Légion, en ce sens que c'est beau. C'est pas
oui,
juste bizarre.
Je vois ce que tu veux dire.
C'est vraiment juste beau, quoi. On parlait de, il y a deux épisodes, d'étalonnage et de couleurs qui donnent un certain ton à différentes séries. Et là, t'as différentes ambiances et différents types d'étalonnage et différents travaux artistiques, vraiment, t'as l'impression que tout est sculpté, dessiné à la main. Je pense que c'est pas un budget énorme, mais ce qu'ils font avec leur budget est admirable. Et pour le coup, je pense que ça plairait beaucoup à Hardisk aussi. Alors c'est quand même une grosse série américaine, hein, donc il y a du budget, mais il y a aussi beaucoup d'inventivité. Donc je pense que ça te parlerait, Hardisk.
Ah, je pense aussi, ouais. Je pense aussi. Alors après, les séries Netflix sont connues pour avoir une image vraiment pas dégueulasse. Ils ont vraiment une espèce d'attention aux détails qui est assez phénoménale. Je parlais de House of Cards dans l'épisode précédent, mais c'est vrai que la photographie est formidable. Après, donc tu me dis, d'accord, ça n'a rien à voir avec du Marvel, par exemple.
Rien du tout.
En termes de, ok, parce que j'ai beaucoup de mal avec les Marvel en règle générale en ce moment, et surtout avec l'image des Marvel en ce moment. Et il y a un espèce de truc. Alors, il y a un truc qui était une mode en 2015, et j'ai l'impression que ça a touché les films et les séries, c'est de faire des publicités sans aucune colorimétrie, limite grise, hein, tu sais. Et il y a eu beaucoup de pubs qui sont sortis comme ça, et les films, il y a des films de super-héros, notamment le deuxième Avengers, où il y a des scènes comme ça dans les villes où c'est hyper gris et monotone, et je trouve ça purement immonde, et c'est en train de toucher beaucoup de films et beaucoup de séries. Et justement, quand j'entends truc de super-héros, j'ai tous les warnings, tu sais, je suis là genre, oula, est-ce que ça va encore être un truc grisâtre, bizarre, quoi.
Alors, franchement, Légion, pas du tout, du tout. Moi, j'aime beaucoup les films Marvel. Je suis vraiment client, mais ça n'a rien à voir. Les films Marvel sont très formulaïques. C'est drôle, c'est de l'action, et tu sais ce que tu vas avoir, quoi. Moi, je les trouve très bien écrits, et bon, on pourrait parler des films Marvel pendant longtemps, mais tu sais vraiment ce que tu vas avoir, c'est toujours la même formule. Légion n'obéit pas du tout, du tout à cette formule. Il y a certains moments où c'est très muted. Les colors sont muted, tu vois. Les couleurs sont très.
Mais si ça sert le propos, aplati. C'est pas dérangeant.
Mais
problème, alors justement, est-ce que c'est tout le temps?
Non, pas du tout, justement, voilà. Parce que le type, il est fou et il est dans un asile. Et parfois, t'as des scènes justement où il est, ou alors c'est des souvenirs, ou c'est des trucs comme ça. C'est comme ça. Mais alors, il y a aussi des moments, c'est hyper coloré. Et quand je disais, il y a des références à l'univers des années 70. Même les couleurs, tu vois, il y a des scènes où tu as les vêtements, c'est, tu sais, cet orange plastique qu'il y avait dans les années 70, cette esthétique.
Un côté un peu le QG de Fantomas, quoi.
Voilà, exactement. Il y a des moments où il y a de ça, mais quand même modernisé, et c'est hyper coloré, hein. Je veux dire, c'est pas du tout, c'est joyeux par moments dans les couleurs, et puis par moments, c'est hyper, à l'opposé, justement, c'est hyper triste. Mais il y a des scènes, enfin, franchement, je veux pas en dire plus parce que je suis en train de trop le vendre, mais c'est un festival, c'est un festival d'inventivité, cette série, et j'ai fait un truc tout bête. Je suis allé chercher Legion, et c'est FX, c'est pas Netflix. Je me suis rendu compte que je l'ai prononcé un petit peu vite.
Ah,
c'est
FX, j'ai compris, Netflix.
Ouais, c'est un network aux US, et c'est FX, c'est pas du tout Netflix. Et tu sens que ils essayent de faire du HBO après HBO, mais avant Netflix, et ils ont vraiment un ton dans les séries qu'ils produisent. Il y a des scènes par exemple limite comédie musicale, quoi. C'est très très rare, ça arrive une fois je crois ou deux, mais pourtant c'est encore une fois, c'est, enfin bref, très bonne série, je vous la recommande.
Ça a l'air vraiment dense.
Ça a l'air de t'avoir obnubilé, hein. T'en parles bien.
C'est marrant parce que je l'avais un petit peu oublié depuis le moment où je l'ai vu. Et là, je me remémore, tu sais, ces bonnes séries, quand tu te ressouviens de trucs auxquels tu pensais plus et tu te souviens de plein de petits détails, tu sais, et tu te réexcites.
T'es dans la douche et t'es là genre, ah mais oui!
Exactement, exactement. Donc, encore plus qu'au début de l'émission, je vous la recommande très chaudement. Je m'en souviens maintenant encore mieux et c'est vrai qu'elle est excellente. Donc voilà, c'est Légion et c'est plutôt pour les fans, mais quand même.
Juste une question,
oui,
Patrick.
Oui, bien sûr,
c'est une saison qui se regarde d'une traite. Enfin, je veux dire, tu sors sur un cliffhanger ou tu peux regarder ça et puis t'es obligé de voir une saison suivante ou
Il y a qu'une saison
d'accord,
et c'est 8 épisodes.
Donc, d'accord. Et l'histoire se termine au bout du 8e épisode. En tout cas, l'histoire de la saison, on va dire.
Ouais.
Donc, ça reste un grand questionnement comme Siberia où tu sauras jamais.
C'est satisfaisant. Ça se termine
c'est cool.
Et tu as une suite qui est appelée. Et d'ailleurs, il y a déjà une saison 2 qui est en production. Mais la fin de la saison est satisfaisante.
Ok, super.
Voili voilou, Pascal, à ton tour.
Alors moi, on va changer de sujet, même si c'est pas psychédélique, ça serait pas le terme exact, mais on va dire que ça va être coloré aussi d'une certaine façon. Je vais vous parler d'un film d'animation français. Franco-belge, pour être plus précis, n'oublions pas la Belgique, qui s'appelle Le Grand Méchant Renard et autres contes, et c'est adapté de la bande dessinée de Benjamin Reiner, qui est lui-même réalisateur du film. Donc vous voyez que le gars, il a tous les talents possibles dans le domaine de l'animation et du dessin, puisqu'il adapte lui-même sa BD. Voilà, alors Benjamin Reiner, c'est la pépite française actuelle du cinéma d'animation, je pense. Alors, bien sûr, il est dans un cinéma qui touche les gens qui ont peut-être des enfants ou qui aiment le film d'animation, parce que celui qu'il avait fait avant, c'était Ernest et Célestine, donc c'est pas les Avengers, hein, c'est une autre ambiance. Mais c'est le petit gars qui a de l'or dans les mains, tout ce qui touche, ça récupère des prix de partout et tout. Et alors, moi, je suis allé voir ça parce que, comme vous l'avez suivi depuis plusieurs épisodes de Positron, je dois faire des choix pour plusieurs personnes maintenant dans mes choix culturels. Et je commence à faire de la veille, tu verras ça, Patrick. C'est-à-dire que tu commences à t'intéresser à des sujets qui ne t'intéressaient peut-être pas directement. Mais tu te dis, si un jour, on me ramène ça à la maison, est-ce que je dois dire stop, attends tes 12 ans ou ouais, ok, c'est bon, mets-le dans le lecteur DVD ou Blu-ray ou 4K. Ça dépendra à quel moment ça se passe. Mais en tout cas, voilà. Que j'ai été le voir un peu en veille, et puis comme je savais que c'était de l'animation française et je suis un grand fan de ce qui se passe dans le cinéma d'animation français actuellement, ce sont beaucoup de gens qui ont digéré Pixar, qui ont digéré Miyazaki et qui arrivent aujourd'hui à produire des films qui sont vraiment plus européens tout en ayant gardé le meilleur des deux, c'est-à-dire je dirais la qualité d'écriture et d'animation du cinéma d'animation japonais qui a toujours été au top. C'est dingue quand on revoit Akira, tout ça, on se dit mais c'est des films qui sont très vieux et pourtant ils ont un détail dans l'animation, c'est très moderne, et ils ont gardé le côté hyper esthétique qu'on pouvait avoir dans le Walt Disney ou dans le Pixar, c'est-à-dire vraiment pousser à fond les détails du décor, les détails et c'est marrant parce que c'était un peu deux cinémas, je dirais, qui s'opposaient, hein. Il y avait l'école Disney, l'école japonais, et souvent ils ne se rencontraient pas. Et là, maintenant, avec ces nouvelles générations, bah, on a le meilleur des deux, c'est-à-dire des films hyper esthétiques, hyper travaillés. Ernest et Célestine étaient en aquarelle et en même temps hyper bien animés, c'est-à-dire le dynamisme qu'on peut retrouver dans les films japonais. Alors, j'arrive au grand méchant Renard parce que j'ai fait un grand laïus de présentation. Donc c'est un film pas très long, d'1h20, et en fait c'est trois petites histoires, trois moyens formats, on va dire de 30 minutes chacun, maximum. Et c'est, en fait, ce sont des animaux d'une ferme qui vont vous raconter des histoires. Alors déjà au début, c'est ça qui est marrant, c'est que ça démarre sur un décor de théâtre. Donc en fait, il y a, comment dire, c'est une sorte de méta-histoire. Ce qui est très marrant, c'est que ce sont des histoires pour les enfants. Mais quand on est adulte, on prend vraiment plaisir à regarder parce qu'il y a énormément de clins d'œil, et pas des clins d'œil sexuels, c'est plutôt des... parce que ça, c'est un peu le défaut, je trouve, dans les films d'enfants, c'est qu'il y a toujours un petit clin d'œil pour les parents et regarder un petit truc salace que les gosses ne comprennent pas. Là, pas du tout, c'est plutôt des personnages qu'on pourrait retrouver, nous, adultes, dans notre quotidien. Alors, il y a un lapin complètement barge, il y a un chien qui est censé être le gardien de la ferme, qui n'a rien envie de bosser, qui passe son temps dans sa niche, qui refile le boulot à tout le monde. Et l'histoire principale du grand méchant renard, en fait, c'est un renard qui doit apprendre à dévorer des poules, mais il est très mauvais. À chaque fois qu'il y va, il se prend des coups dans la figure et tout. Et donc, il va, le loup, qui est son meilleur ami et son seul ami, on va dire, qui vit avec lui dans la forêt, va lui dire qu'en fait, ce serait plus simple qu'il chope des poussins et qu'ensuite, en les élevant, il pourra ensuite les manger. Ça collerait plus. Et puis bon, bien sûr, le renard, qui dans le fond n'est pas méchant, va s'attacher à ces petits poussins qu'il a kidnappés. Et donc voilà, on va suivre des histoires comme ça, un peu décalées, un peu. C'est dans un trait très particulier. Je sais pas comment dire. C'est très bien animé et en même temps c'est très dessiné à l'arrache, avec beaucoup de couleurs. C'est très dur hein, de décrire un dessin. Je vois tout à l'heure Patrick, tu avais du mal avec Légion à expliquer un peu ce qu'on voit à l'écran. Bah là, c'est dans un autre genre, mais c'est pareil quand ça te touche. C'est très bien doublé. C'est des acteurs de théâtre hyper qualifiés, donc il y a vraiment une ambiance vocale forte. Les histoires sont très drôles. Il y a donc trois histoires avec un Père Noël et l'autre avec un enfant à livrer. Ça dure pas très longtemps, vous allez passer un bon moment et en plus le comble, je dirais, de la qualité de cette œuvre, c'est qu'elle est réalisée donc par Benjamin Reynard, qui est un grand auditeur de podcast et ça se trouve il nous écoute. Donc je lui fais un bonjour, un salut. Je ne le connais pas, mais j'ai cru comprendre qu'il était fan, qu'il écoutait énormément
de
podcasts.
Tu as cru comprendre qu'il était fan de Patrick Béja?
Oh, incroyable, le grand Patrick.
Il a l'air de passer une partie de son temps à écouter des podcasts pendant ses productions, donc voilà, on le salue s'il nous écoute. Et vraiment très très beau boulot, je vous le conseille. Essayez de le louer si vous voulez pas investir, mais je pense quand même que vous allez être surpris par la qualité d'écriture. Je pense que ça peut, je dirais, pour tous, au moins pour les curieux, quoi. C'est à voir. C'est vraiment très sympa, on se marre bien et c'est bon enfant.
Et en plus, effectivement, bon enfant. Très bien. Merci beaucoup Pascal, ça a l'air sympathique en effet, et j'ai regardé un petit peu le style de dessin, c'est tout gentil et tout mignon, et ça change effectivement de l'animation justement, soit Disney soit japonaise. C'est vraiment du dessin pour enfants, mais tu sens l'influence européenne, quoi. Donc
ouais, voilà, c'est européen, je trouve c'est le terme exact. C'est pas vraiment franco-belge, c'est pas vraiment français, c'est vraiment, c'est cool, hein, je vous jure. Moi, j'ai été scotché au cinéma. Hein. Je m'y attendais pas du tout.
Bah, écoute, je vais commencer à prendre des notes parce que, comme je le détaillerai dans le prochain épisode, je vais avoir besoin, moi aussi, de ce genre de choses. Bon, bah, écoute, Hardisk, c'est à ton tour. De quoi nous parles-tu aujourd'hui? Tu fais dans l'originalité, d'après ce que je comprends.
Ouais, alors sur cet épisode, j'ai pris un truc, j'ai fait exprès de choisir un truc qui allait plaire à trois personnes. Parce que je me suis dit, c'est une occasion de parler d'une de mes passions de niche. Donc c'est très très spécial, je m'attends pas à ce que les gens se passionnent pour ça, mais c'est rigolo de savoir que ça existe. Alors je vais parler d'un jeu vidéo, mais d'un jeu vidéo d'une manière un petit peu différente, parce que je vais parler d'une sous-culture d'un jeu vidéo. Ce jeu, c'est World of Warcraft, passion que je partage avec Patrick depuis très longtemps.
Oh là, et que j'ai eu aussi. Sa sortie.
Passé par là.
Je savais pas.
Ben, j'ai pas suivi comme vous, bien sûr, mais c'est un moment j'ai changé un peu d'univers jeu vidéo, mais ça a été une des plus belles expériences de jeu vidéo que j'ai connues, quoi.
Ah, trop bien. Ben, je savais pas, tu vois, c'est cool. Ben, en fait, voilà, ce dont je veux parler, c'est d'une sous-culture de jeu qui existe. Donc, il faut savoir que voilà, World of Warcraft, c'est un MMORPG qui est donc payant, qui a été lancé par Blizzard il y a un peu plus de 11 ans maintenant, je crois. Très très tôt, dès l'annonce de jeu, il y a eu des bidouilleurs, en fait, qui se sont attelés un peu à voir ce qu'ils pouvaient faire avec. Et il y a eu ce qu'on appelait toute une vague de l'émulation World of Warcraft, c'est-à-dire des gens qui faisaient des serveurs privés. Et là, je pense que le contrat de NDA de Patrick doit être en train de sauter. Je sais même pas si c'est un truc que t'as le droit de discuter.
Bon, si, bien sûr. Mais... Non, moi, j'ai aucun. Pour ceux qui savent pas, j'ai travaillé pour la société Blizzard Entertainment, donc le développeur et l'éditeur du jeu World of Warcraft. Et évidemment, toi, tu utilises le terme politiquement correct de serveur privé. Je ne doute pas que d'autres personnes, dont Blizzard, diraient de serveur pirate, puisque c'est effectivement un moyen de se connecter, de connecter le client qu'on a sur l'ordinateur à des serveurs autres que les serveurs officiels de Blizzard, et de faire des choses sur ces serveurs. Et effectivement, disons que la légalité de la chose est discutée. On va dire ça comme ça pour rester poli.
C'est discuté
même
depuis
si tu as acheté le jeu, par exemple.
Techniquement, c'est contre le règle d'utilisation de Blizzard. Okay. La légalité, c'est techniquement légal. Mais bon, disons qu'il n'y a pas vraiment eu de jurisprudence World of Warcraft, quoi.
Je pense que c'est le genre de truc où c'est légal, c'est pas criminel de t'y connecter, mais le fait de faire tourner un serveur, par contre, on a eu beaucoup d'histoires comme ça. Ça, par contre, je pense que c'est assez clair. C'est pas tout à fait légal, quoi, du côté des serveurs. Mais bon.
Mais donc, du coup, moi, ce à quoi je voulais m'intéresser, c'est que donc voilà, comme disait Patrick, on peut forcer le jeu à se connecter ailleurs que chez Blizzard. Et donc, il y a des gens qui ont développé, en fait, des serveurs alternatifs. Alors, il y a un côté pas très intéressant qui est, il y en a plein qui sont faits pour jouer gratuitement à une version fonctionnelle, mais un peu plus buggée du jeu. Ça, c'est pas très intéressant. Mais moi, ce qui m'a vraiment passionné pendant des années, c'est des gens, il y a toute une communauté de modeurs, en fait, qui se sont mis à créer des outils de développement autour de World of Warcraft et qui sont mis à créer complètement un jeu alternatif avec World of Warcraft comme base, et je voudrais en citer quelques-uns si jamais ça vous intéresse. Il y a notamment des trucs qui sont assez simples, comme des staircase events, où en gros il y a des joueurs qui ont pris des endroits complètement vides de la carte au milieu d'un océan et qui ont mis plein de tables les unes sur les autres, et le but c'est de sauter sur les tables pour arriver en haut d'un espèce de parcours.
C'est marrant,
il y a plein de trucs comme ça. Il y a du model swap où en gros les gens changent les modèles 3D pour avoir une voiture au milieu d'un truc d'heroic fantasy. Enfin, ça n'a aucun sens, c'est des trucs un peu rigolos comme ça. Et il y a des gens qui sont allés très très loin, comme WoW Awakening, où c'est un serveur où il n'y a plus de classes. Donc dans le jeu de base, il y a des classes, il y a les mages, les chasseurs, etc. Il n'y a plus de classes, et tous les sorts sont disponibles pour tout le monde à chaque niveau. Donc vous pouvez faire votre propre classe en piochant dans les sorts de toutes les classes. C'est assez intéressant comme gameplay.
C'est hyper équilibré, ça.
Non, mais c'est pas du tout équilibré, évidemment, mais c'est rigolo, tu vois, c'est des trucs un peu, voilà. Et on a un truc aussi comme Undying WoW, qui se base sur une ancienne version de World of Warcraft, où là, le monde est totalement customisé, ça s'appelle une extension custom. On n'a pas accès au monde du jeu traditionnel, et on est vraiment dans l'histoire qu'ont créé les développeurs d'Undying WoW, avec des personnages, des histoires, des quêtes complètement customisées de A à Z. Et une petite note, alors ça, c'est vraiment niche de chez niche, parce que ça fait 1000 vues sur YouTube, même chez les gens qui aiment bien ça, c'est la chaîne YouTube de Reznik Shaman qui parle donc de Bidouille World of Warcraft, et qui lui s'est mis à faire un truc un peu taré. Il s'est mis en fait à créer une carte complètement alternative pour World of Warcraft, qui est une carte entre guillemets photoréaliste post-apocalyptique. Donc ça ressemble visuellement au premier Counter-Strike. C'est très bizarre parce que ça tourne sur le moteur du jeu de World of Warcraft.
c'est différent.
C'est vraiment pas du tout fait à la base pour faire tourner un truc pareil, et on voit un orc dans une espèce de voiture à la Fallout. Enfin, c'est assez rigolo de regarder ça. Et donc voilà, c'est juste pour montrer un peu cette espèce de monde de bidouilleurs qui existe et qui est un peu de niche, et que je trouve moi très très rigolo et passionnant.
Effectivement, c'est le genre de truc complètement délirant qui, de fait, je pense, n'est pas très intéressant à jouer sur le long terme pour la plupart des gens, mais il y a certaines personnes qui vont adorer et qui vont se plonger là-dedans, et ça peut souvent donner lieu à de la créativité surprenante, quoi.
C'est moi, j'adore le principe des modes. Je trouve ça dommage que ça reste encore trop niche, en tout cas dans la culture, parce que pour moi c'est la partie artistique du jeu vidéo. En tout cas pour moi, c'est de là que peut venir l'art dans le jeu vidéo, parce qu'il y a l'art, la création du jeu en lui-même, tout le travail, le concept et tout. Mais je trouve ça toujours passionnant de voir. C'est comme voir quelqu'un s'asseoir sur une table, si vous voulez. Il a complètement cassé le concept de départ. Et d'une certaine manière, les mods, c'est un peu ça. C'est aussi une façon de revisiter un jeu. Et j'espère, je vois par exemple des associations comme MO5, tout ça. J'espère qu'un jour, si Blizzard doit stopper les serveurs pour une raison ou pour une autre, il y aura une sorte de fondation internationale qui permettra aux gens de continuer à. Enfin, je trouverais ça vraiment dommage de perdre le voyage dans World of Warcraft.
Ce qui emmerde Blizzard, alors c'est mon avis perso, mais comme tu y as travaillé, Patrick, ça m'intéresse beaucoup de savoir. Ouais. Je pense que ce qui peut emmerder. Ce qui peut emmerder Blizzard, c'est les serveurs qui justement ne sont pas faits pour du contenu customisé, mais qui sont faits pour répliquer le jeu traditionnel de manière gratuite. Parce que là, je comprends l'emmerdement. Par contre, pour les gens qui ont fait un serveur privé dont le seul but c'est de se balader sur un cube vert avec une Lamborghini juste pour rigoler, parce que ça existe hein, littéralement. Il y a des gens qui ont mis une Lamborghini comme monture dans World of Warcraft. Du coup, mais si tu veux, je vois pas trop le côté. C'est comme, tu vois, il y a une limite entre les mods qui font perdre de l'argent et les mods qui, entre guillemets, ouais, servent de publicité parce que c'est rigolo et c'est hors contexte et ce serait impossible à faire sur la version officielle.
Bah, je dirais, bon, je parle pas au nom de Blizzard, bien sûr, hein, c'est pas du tout, je travaille plus pour eux et je suis pas représentant ou je représente pas du tout ce qu'ils pourraient penser, j'en sais rien aujourd'hui. Mais de ma connaissance de joueur, ce que je dirais, c'est que il y a énormément de problèmes que peuvent poser ce type de serveur dont les gens ne se rendent pas compte. Alors bien sûr, il y a l'aspect financier, c'est-à-dire que pour la partie, on fait tourner le jeu. Il y a une grosse polémique sur le fait que Blizzard a fait fermer des serveurs de WoW classiques. C'est-à-dire de WoW tel qu'il
oui,
était.
Oui, bah oui, il y a,
oui,
y a eu tout un drama avec Elysium, voilà, notamment un serveur classique. Ouais.
Exactement. Et donc ça, bien sûr, c'est une série de problèmes. Ça prendrait une demi-heure pour tout expliquer, mais en gros, d'une part, c'est une question de propriété intellectuelle qui est appropriée par les gens qui utilisent ce serveur. Et même s'ils le font pas pour l'argent, s'ils laissent courir, tu vois, au bout d'un moment, oui, les gens qui, ouais, sont sur,
c'est
ce serveur...
C'est le problème des trademarks, c'est-à-dire que tu es obligé de défendre ta marque, sinon tu la perds.
Bah, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait, par exemple, que s'ils laissent courir, les gens s'habituent à avoir un serveur comme ça qui, entre guillemets, tacitement autorisé par Blizzard, et du coup, ça devient acceptable. Et ensuite... Il y a de plus en plus de gens qui vont sur ce serveur parce que c'est gratuit, donc tu dis joue à WoW gratuitement. Ensuite, il n'est pas du tout garanti que les gens qui vont utiliser ce serveur vont ensuite savoir que c'est pas Blizzard qui est en train de gérer ce truc et peuvent se retourner vers Blizzard pour dire ah mais il y a un truc qui marche pas bien machin.
Tu penses?
Je suis sûr qu'il y a, mais il y a plein de gens qui vont
entendre ça. Je m'étais jamais fait cette réflexion.
Il y a plein de gens qui vont entendre ça et qui vont se dire, ah, oh, mais non, mais pas du tout, on sait, mais encore une fois, il y a aussi la question d'argent. Mais en plus de ça, c'est un vrai problème. Si ça se démocratise, les gens font pas la différence entre, ah, mais c'est Blizzard, c'est pas Blizzard. Ils sont sur un truc World of Warcraft et je vous garantis qu'il y a des gens qui vont aller se plaindre à Blizzard de la manière dont est géré tel ou tel truc. Ensuite, il y a des gens qui disent, ah, mais pourquoi est-ce que Blizzard fait pas une, enfin, il y a une question de volonté artistique, de volonté commerciale, pourquoi est-ce que Blizzard fait pas des serveurs classiques? Bien sûr, il y a des clients puisque...
Alors, juste rapidement,
voilà,
la version classique, c'est en fait une version du jeu avant toutes les extensions. Donc, le jeu tel qu'il était en 2006, et il y a plein de joueurs nostalgiques de cette version qui ont créé des serveurs donc alternatifs qui sont encore à cette version du jeu. Du coup, fait fermer. Le contexte rapidement de... Voilà.
C'est ça. Et quand tu dis plein de gens, faut mesurer les choses aussi. C'est quelques dizaines de milliers, dont une bonne partie, je pense, qui vont parce que c'est gratuit. Il y a des amoureux du truc, hein. Je dis pas le contraire. Mais soyons honnêtes, le jeu, si on y retourne, tel qu'il était en 2005, c'est pas du tout le même jeu et c'est pas du tout le même agrément de jeu non plus. Pour autant qu'il y ait des gens qui disent ah, World of Warcraft, c'est plus la même chose. Les jeux ont évolué et donc je pense pas que s'il y avait, c'est très simple, s'il y avait un intérêt financier à le faire, je pense que Blizzard le ferait déjà. Donc
moi je pense qu'ils vont s'y mettre quand World of Warcraft attirera plus autant d'abonnés.
Ça peut être un jour, mais moi j'y crois pas énormément. Et il y a un autre problème dans l'histoire dont je suis sûr que là encore des gens vont dire ah, mais non, mais attends, n'importe quoi, on fait ce qu'on veut, c'est pas... Il y a, à mon sens, l'idée aussi que Blizzard a décidé de ce qu'était World of Warcraft, tu vois, et c'est eux qui en sont propriétaires, ouais. C'est eux qui le font évoluer. Et au-delà de toutes les argumentations commerciales, machin, c'est pas à quelqu'un d'autre de dire nous on veut que World of Warcraft soit comme ça et on vous demande pas votre avis. Tu vois, il y a une propriété intellectuelle qui est pas juste un truc commercial d'entreprise, c'est une propriété artistique, une intention artistique, il y a des artistes chez Blizzard, il y a des développeurs, il y a des, tu vois, si moi je décide ah ouais mais la vidéo de Hard Disk elle est pourrie telle qu'elle est, je vais venir rajouter des trucs, mettre des smileys sur les têtes et ça va être beaucoup mieux. C'est marrant, mais enfin si toi t'as pas envie que ta vidéo soit présentée comme ça et qu'on dit c'est la vidéo d'Hard Disk machin, t'as le droit de dire mais attends c'est pas
non,
ce que
j'ai
je,
fait quoi. Je comprends donc, totalement, mais je pense qu'il y a une certaine mesure, il y a toujours eu des fanfilms, il y a toujours eu des tu vois du contenu de fan entre guillemets, et je pense qu'il y a une certaine mesure où c'est du foutage de gueule parce que c'est le jeu en version gratuite et là il y a aucune créativité et moi personnellement bon ça se bof, et il y a une certaine mesure où il y a quand même toute une créativité et comme je le disais une espèce de sous-culture bien reconnue avec des gens qui sont vraiment passionnés de modifications et de choses comme ça de sur ce jeu, et là je pense que c'est plus vraiment un amour pour ce qu'a fait Blizzard justement plus que on veut revenir en arrière.
Je dirais que sur ce genre de truc, à mon avis, là encore, j'en sais rien, mais à mon avis, avant que Blizzard commence à t'envoyer ses avocats, il faut que ça ait une certaine ampleur. Tu parlais de tous ces mods, je sais pas du tout où ils sont, mais
ah non, mais on parle de trucs qui ont des centaines de joueurs, c'est pas grand chose.
C'est
hein.
ça. Donc, t'as l'air de dire que ça fonctionne et qu'ils sont accessibles et qu'ils sont pas immédiatement harcelés par les. Les avocats de Blizzard, ils ont d'autres choses à foutre aussi que d'aller emmerder les gens qui sont 200 sur un serveur pirate, tu vois.
Mais
pour parler des mods en général, moi je pense qu'il y a aussi, vous avez évoqué la chose en disant ah ouais ça se fait plus, c'est dommage, ça se perd machin. Je pense qu'il faut quand même noter le fait que à mon sens la culture du mod existe encore. Il y a des jeux où c'est tout à fait possible. Enfin, on évoquait à un moment...
Patrick. Je disais pas que j'étais nostalgique de ça. Je disais juste que oui, ça existe. Hein. Même Bethesda, je crois, pour certains
voilà,
jeux,
exactement.
Propose
on peut parler de Skyrim,
des galeries de mods. Mais alors, le problème, c'est que quand ils font ça, les modeurs officiels, ou en tout cas la communauté mod, trouvent que c'est scandaleux. Alors, moi qui suis un amateur je suis toujours intéressé par la démarche artistique qu'on peut ajouter à du jeu vidéo, par exemple. Je suis toujours triste parce que ça reste niche par les gens qui le font, qui n'ont pas toujours envie que ça soit plus populaire. Et quand il y a une démarche populaire réalisée par un éditeur, et là, souvent, ça crie au scandale ou au commercial.
Ouais,
mais
bon, c'est encore autre chose parce que tu parles de la.
Ça, au contraire, je trouve c'est cool si ça se démocratise ou en tout cas que les jeux vidéo, en fait, c'est plus une forme de langage dans le jeu vidéo. Je trouve ça cool. Par exemple, l'Assassin's Creed qui est sorti, qui va proposer en février de visiter le monde sans se faire attaquer par un serpent ou quoi que ce soit. Ouais. Je trouve ça cool, tu vois. Ça aurait pu être un mode. Par un mec qui a envie de se dire j'ai envie de visiter une pyramide. Là, c'est intégré et c'est ça que je trouve cool. C'est quand tu arrives à redécouvrir un jeu autrement que par que le gameplay, tu vois.
Je suis d'accord, mais ce que j'essaye de dire en fait, c'est que.
Et je comprends tout à fait la propriété intellectuelle et tout, et les gens réalisent pas à quel point c'est très très dur d'arriver à conserver une œuvre dans son intégrité, quoi.
Non, mais en plus, excuse-moi, j'insiste, mais. Ça existe encore. Il y a des trucs, Minecraft, il y a des modes de partout. Skyrim, c'est hyper populaire. Il y a des dizaines et des dizaines de modes. GTA V est hyper modifiable. Il y a plein. Ça existe. C'est une culture qui existe encore complètement. Donc, je veux juste pas laisser dire que les modes, c'est une sorte d'art perdu qui n'existe plus dans le jeu vidéo parce que les méchants développeurs, détruisent la créativité.
Non, mais c'était pas mon propos non plus.
Non, d'accord. Mais bon, alors peut-être que j'ai mal compris, mais il y a une. Je pense que les gens ont souvent tendance à penser ça. Et donc, je précise la chose, les mods existent encore complètement.
C'est vrai qu'il y a un rapport manichéen souvent sur ce sujet-là, mais je suis d'accord. Je trouve qu'ils sont souvent plus conciliants qu'ils en ont l'air, en tout cas, ou en tout cas l'image qu'on peut donner aux éditeurs.
Bon, en tout cas, voilà pour cette discussion qui a été générée par ton positron, fort sympathique, donc les mods et les hacks dans World of Warcraft. J'espère que ça aura été une discussion qui aura intéressé les auditeurs. En tout cas, c'est la fin de notre épisode, de cet avant-dernier épisode de la session de Positron qui nous amène à l'épisode 100, qui sera disponible donc juste avant Noël. Je vous rappelle qu'on a parlé de Légion, une sorte de psychédélique partie pour vos yeux et vos oreilles, du Grand Méchant Renard, qui est un film d'animation jeunesse, qui est pour tout le monde, et des modes et des hacks de World of Warcraft, qui est dans le domaine du jeu vidéo et qui est quand même très très niche. Merci à tous les deux de nous avoir emmenés dans ce voyage incroyable. Est-ce que vous pouvez nous dire où les auditeurs peuvent aller s'ils en veulent plus ? Commençons par Pascal.
Vous pouvez me retrouver sur quasiment tous les réseaux sociaux au Pascal Mabille, hein, j'ai pas de pseudo, et sur ma chaîne YouTube, vous pouvez découvrir au moins une fois par mois un aprographe, un dessin improvisé sur une musique que vous n'entendez pas pour des questions de droit.
Toujours eux. Très bien, et Hard Disk.
Eh bien écoute, moi je tweet beaucoup sur twitter.com/hardisk, c'est H-A-R-D-I-S-K, et je fais des vidéos qui parlent d'audiovisuel deux fois par semaine sur youtube.com/hardisk aussi.
Magnifique. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook, et vous retrouvez cette émission et beaucoup d'autres sur frenchspin.fr, et vous retrouvez également sur ce site les autres émissions que je produis. Et si vous aimez les jeux vidéo qu'on a évoqués aujourd'hui, vous pouvez chercher le rendez-vous jeu sur votre app de podcast ou sur le site en question, et vous aurez un résumé toutes les deux semaines de tout ce qui s'est passé d'important dans l'univers du jeu vidéo, dans l'industrie, et on analyse un petit peu tout ça et on parle des jeux récent, et Dieu sait que en ce moment, cette saison de Noël, il y en a eu énormément, donc je pense que tout le monde gagnerait à écouter cette émission. Ça s'appelle le Rendez-vous Jeu et c'est disponible partout où il y a des podcasts. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour l'épisode 100.
I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.